Je veux parler ce matin de ce que j'appelle les questions élémentaires. Dis à ton voisin, questions élémentaires. J'ai fait un constat extraordinaire dans la vie chrétienne. C'est que lorsque nous ne sommes pas chrétiens ou que nous n'avons pas une relation, une expérience avec Dieu, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Nous nous posons énormément de questions sur la spiritualité, énormément de questions sur Dieu et même sur les événements qui nous entourent. Nous demandons, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Pourquoi est-ce que telle ou telle chose nous est arrivée? Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre dans tel ou tel pays? Nous avons un certain nombre de questions et pour ma part, avant de me convertir, j'avais toutes ces questions. Et puis, j'ai fait cette expérience extraordinaire de la rencontre de Christ. Et j'ai pensé que en embrassant la foi chrétienne, en embrassant cette croyance selon laquelle Christ est mort pour mes péchés et tous mes péchés ont été lavés par le sang de Christ, j'ai eu la profonde conviction que j'allais avoir la réponse à toutes mes questions. Et effectivement, quand Dieu nous parle, bon, parfois il vient éclairer certaines zones d'ombre. Mais j'ai remarqué que plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus les questions augmentent encore. Je dis, plus on avance dans la vie chrétienne, plus on lit la Bible, plus on prie, plus on s'attache à Dieu, plus on a de questions. Le chrétien mature, bien-aimé, a plus d'interrogations que le nouveau converti. Et alors, je suis arrivé à une conclusion, c'est que notre foi n'est pas basée sur le fait que Dieu répond à nos questions. Parce que Dieu est un mystère. Et la particularité du mystère, c'est que c'est mystérieux. Donc plus tu rentres dans cette relation avec le mystère de Dieu, plus tu t'interroges sur lui, sur ses systèmes, comment ils fonctionnent. Notre foi est basée sur le fait que Dieu est Dieu, bien-aimé. Et que quel que soit ce qui se passe autour de moi, je sais qu'il ne peut pas m'abandonner. Ma foi n'est pas basée sur le fait que Dieu me bénisse ou que Dieu ne me bénisse pas. En réalité, quoi qu'il arrive dans ma vie, Dieu reste Dieu. Et il a la première place. Si les circonstances devaient guider ma vie chrétienne, je ne serais peut-être plus chrétien aujourd'hui. Si les difficultés de la vie devaient guider ma relation avec Dieu, je serais bien loin aujourd'hui. Mais Dieu est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu. Alors voyez-vous, dans les Saintes Écritures, il y a des questions que Dieu a posées aux hommes. Je dis, il y a des questions que Dieu a posées aux hommes. Et la réponse à ces questions a déterminé leur destinée. Je dis, nous sommes dans une attitude d'assistanat. Nous nous attendons à aller vers Dieu et à voir Dieu tout faire pour nous. Nous nous attendons à aller vers Dieu et voir Dieu répondre à tout. Mais en réalité, je dis, ce matin, Dieu va te poser des questions. Et ce sera à toi de trouver les réponses à ces questions. Il y a des situations dans la vie où Dieu va te pousser à rentrer en toi-même. Parce qu'à l'intérieur de toi, Dieu a mis toutes les ressources. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont enfouies à l'intérieur de toi, mais tu ne le sais pas encore. Alors Dieu va te mettre dans des situations où tu vas devoir aller puiser au plus profond de ta personne pour trouver les réponses aux questions que tu te poses. J'aimerais ensemble que l'on puisse lire le livre de 1 roi au chapitre 3, versets 4 à 5. 1 roi, chapitre 3, versets 4 à 5, la Bible dit ceci. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Je passe au verset 9. C'est Salomon qui répond, il dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Amen. Dans ce texte, le roi Salomon vient d'être intronisé. En réalité, lorsque son père David va mourir, il va y avoir une lutte de pouvoir parce que ses frères vont également vouloir être roi. Et puis, après cette lutte, Salomon va donc devenir roi. Et la Bible nous dit que l'une des premières choses qu'il va faire, il va aller à Gabaon pour sacrifier. C'est important de rendre grâce à Dieu. Je dis, c'est important de rendre grâce à Dieu. La première chose que Salomon a faite, il est allé rendre grâce. Il est allé faire un sacrifice qui a peut-être scandalisé toute la population. La Bible dit qu'il a offert 1000 holocaustes à Dieu. Et puis, à ce moment-là, Dieu dans le ciel va être touché. Et il va poser la question à Salomon, « Qu'est-ce que tu veux ?» Et puis au verset 9, nous lisons, Salomon va demander la sagesse. Et quand vous lisez le texte un peu plus loin, on nous explique que Dieu va lui donner la sagesse et Dieu va lui donner toutes les choses qui sont rattachées à la sagesse, la richesse, etc. L'une des choses qui me frappe dans ce texte, c'est que lorsque Dieu a demandé à Salomon ce qu'il veut, Salomon n'a pas bégayé. Salomon n'a pas dit, Dieu, attends, je vais réfléchir. Il n'a pas dit, attends, dans une semaine, je te donne la réponse. Salomon a répondu instantanément. Si tout de suite, Dieu descend et Dieu te pose la question, que veux-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre? Si c'est maintenant, Dieu te pose la question, que veux-tu? Oui, c'est trop tard, Dieu est déjà remonté. Dieu est déjà remonté. Que tu es encore en train de réfléchir. Est-ce que je demande une maison, une voiture, un travail, un mari? Quelle voiture? Tu es encore en train de réfléchir, mais Dieu est déjà parti. Parce que le problème que nous avons dans l'église, nous ne savons pas ce que nous voulons. Même pas que dans l'église. Le problème que nous avons dans nos sociétés, les gens ne savent pas ce qu'ils... Parfois, ce qui te sépare de ton miracle, mais c'est ta détermination à savoir ce que tu veux. Amen. Je dis, Dieu veut t'exaucer. Mais Dieu est en difficulté parce que quand il veut t'exaucer, il ne sait pas quoi te donner. Puisque même toi-même, tu as du mal à demander à Dieu parce que tu ne sais pas quoi demander. Bien-aimés, nous accusons Dieu pour des choses qu'il n'a jamais faites. On te demande qu'est-ce que tu veux. Tu es en train de bégayer. Quelle est la chose, pas plusieurs choses. Salomon n'a pas demandé plusieurs choses. Salomon savait qu'il y avait un élément qu'il lui fallait dans sa vie pour réussir. Salomon savait exactement ce qu'il voulait. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Vous avez des personnes qui vous disent, bon, moi je veux un mari, je veux une femme. Mais quelle femme? Quel mari? Comment? Quelle est la vision que tu as? Un blanc, un noir, un chinois, intelligent, pas intelligent? Mais quelle est la définition que tu as? Parce que Dieu veut te donner, mais il y a un obstacle. C'est ta capacité à savoir. À savoir ce que tu veux. Tu veux la réussite, mais c'est quoi la réussite pour toi? C'est quoi la réussite? C'est être directeur d'entreprise? C'est être un politicien? C'est être un cinéaste? C'est être un joueur de football? C'est quoi la réussite? Tu pries simplement, Seigneur, fais-moi réussir. Mais réussir comment? C'est être un pasteur connu, c'est quoi ta définition de la réussite? C'est travailler 24 sur 24, c'est passer beaucoup de temps avec ta famille. Quelle est la définition que tu as de la réussite? Parfois, nous demandons des choses. En fait, nous voulons le bénéfice sans avoir la contrainte avec. Tu ne peux pas demander beaucoup de responsabilités et fuir les contraintes qui sont liées aux responsabilités. Parfois même Dieu nous exauce et nous regrettons. Je vous dis des choses qui sont réelles. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu le harcèles, tu fais des offrandes, Et le jour où Dieu t'exauce, tu dis, oh, si je savais. Vraiment. La chose pour laquelle tu as pleuré, la chose pour laquelle tu t'es débattu, tu as fatigué le pasteur. Et le jour où Dieu te donne cette chose-là, tu te m'as regretté. Mais parce que tu ne sais pas. En réalité, tu demandes des choses, mais tu ne sais pas ce que tu demandes. Je dis, tu ne sais pas ce que tu demandes. Question élémentaire. Que veux-tu dans ta vie? Dans tous les domaines de ton existence, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta famille? Qu'est-ce que tu veux sur le plan professionnel? Qu'est-ce que tu veux sur le plan spirituel? Qu'est-ce que tu veux sur le plan moral? Que veux-tu? Tu dois régler cette question d'abord avec toi-même. Et quand c'est réglé avec toi-même, parle à Dieu. Parce que Dieu veut t'exaucer. Alléluia! Mais tu dois savoir ce que tu veux. Lisons Genèse, au chapitre 32, versets 24 à 28. Genèse, chapitre 32, versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Verset 28, il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Amen. Dans cette histoire, on nous parle de Jacob. Jacob est un personnage important des Saintes Écritures. Et il est en train de revenir d'exil. Parce que Jacob, en fait, a volé le droit d'aînesse de son grand frère jumeau Ésaü. Et alors, il va fuir le pays de son père pour aller vivre, n'est-ce pas, avec son oncle Laban. Et il va passer 20 années comme cela. Et puis, à un moment donné, après avoir travaillé pour Laban pendant plusieurs années, après s'être marié deux fois, avoir eu des enfants, Dieu va lui parler. Dieu va lui dire « Repars vers le pays de ton père. » Et pendant que Jacob est en train de repartir vers le pays de son père, il vit cette expérience. La Bible dit qu'il se retrouve seul. Et alors qu'il est seul, il y a un homme. Bon, spécialiste de l'étude de la Bible disent que cet homme, en fait, ce n'est pas un homme. Certains disent que c'est un ange, d'autres disent que c'est Dieu. Mais bon, bref, Jacob se retrouve là avec quelqu'un. Et puis, il va se battre avec cet homme, s'il faut dire ça ainsi. Et à un moment donné, l'homme va lui dire « Laisse-moi partir parce que l'aurore se lève. » Et Jacob dit « Tu ne pars pas tant que tu ne m'as pas béni. » D'ailleurs, ça c'est extraordinaire. Il lui dit « Je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. » Alors je m'attendais à ce que le monsieur puisse le bénir. Mais lorsqu'il lui dit ça, ce qui suit, c'est que le monsieur lui pose une question. Peut-être que c'est ça la bénédiction. Et il lui demande, mais quel est ton nom? Et Jacob répond, mais c'est Jacob. Le monsieur est scandalisé. Il dit, non, ton nom, c'est pas Jacob. À partir d'aujourd'hui, ton nom, c'est Israël. Parce que tu as lutté et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Amen. Alors, c'est une expérience extraordinaire. En réalité, ici, dans la culture juive, le nom rapporte à l'identité. Le nom rapporte à la destinée. C'est pour cela que Jabez a vécu une vie misérable. Parce qu'en réalité, ses parents l'ont appelé misère. Parce que Jabez veut dire misère. Sa mère a dit, j'ai accouché dans la douleur, alors je vais appeler mon père, mon enfant misère. Je me souviens en CE1. J'avais un condisciple de classe. Il s'appelait Misère. Mais je vous assure que vraiment sa vie n'était pas enviable. C'était vraiment un jeune homme qui souffrait. Il vivait une vie compliquée. Il était bête à l'école. Il avait toujours des mauvaises notes, toujours des expériences bizarres. Et un jour, même la maîtresse s'est fâchée. Elle a dit, mais tu n'as que des mauvaises notes, c'est normal, c'est parce que tu t'appelles Misère. Je comprends pourquoi tes parents t'ont appelé comme ça. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants et au nom que vous vous donnez vous-même. Parce que ces noms ont un impact sur la destinée. C'est comme dans cet épisode où on devait arrêter Jésus près du jardin de Gethsémané. La Bible nous dit que les soldats sont arrivés, Jésus est sorti, et puis on a voulu l'arrêter. Et à un moment donné, il y a un disciple qui a pris une épée et qui a frappé un des soldats et il a coupé l'oreille. Et je me suis toujours posé la question, mais de tous ces soldats, pourquoi c'est que à lui qu'on a coupé l'oreille? Mais c'est parce qu'il s'appelait Malchus. Malheur. Il y avait tous ces soldats-là, mais il n'y a qu'à lui à qui on a coupé l'oreille. Malchus. Et donc, voyez-vous, autour de nous, il y a ce genre de personnes. Il y a des Jabez, il y a des Malchus. Ce sont des personnes qui, même quand tout va bien pour les autres, pour eux, ça va mal. Et donc, lorsque, en réalité, l'homme ou l'ange ou Dieu pose la question à Jacob, en lui demandant, quel est ton nom? En fait, ce n'est pas quel est ton nom, la vraie question. La question que Dieu pose, c'est qui es-tu? C'est ça la question qui est posée. Il lui demande, mais qui es-tu? Et ce qui est grave, c'est la réponse. Parce que Jacob dit, je suis Jacob. Or, Jacob veut dire voleur, usurpateur. Donc, on lui demande, qui es-tu? Il répond, je suis un voleur. Et Dieu lui dit, non, tu n'es plus un voleur. Parce que tu as eu une expérience avec moi. Parce que nous nous sommes rencontrés. Parce que j'ai changé ton existence. Parce que je suis mort sur la croix du calvaire pour toi. Parce que mon sang a coulé pour toi. Je t'ai complètement racheté. Ta vie passée est passée. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous, l'une des difficultés que nous avons, c'est que nous vivons notre vie avec le spectre du passé. Tu te vois exactement comme tu étais hier, mais tu n'es plus la personne que tu étais hier. Je dis, tu n'es plus la personne que tu étais hier. Tu n'es plus ce voleur de quartier. Tu n'es plus cette prostituée de l'époque. Tu n'es plus, je ne sais pas, ce tricheur. Non! Tu ne l'es plus. Même si quand les gens te voient, ils veulent continuer à te coller cette étiquette, mais c'est terminé. Parce qu'il a changé complètement ton existence. Il l'a fait spirituellement et il le fait également naturellement. Le passé reste au passé, bien-aimé. Dieu nous a transformés, quel que soit ce que tu as fait dans le passé. Mais Dieu t'a restauré. Alors il lui dit, tu n'es plus un voleur, parce que j'ai une destinée pour toi. Dans la question de l'identité, il y a ce que j'appelle l'identité prénatale. Dis à ton voisin l'identité prénatale. Dans Jérémie, au premier chapitre, au verset 5, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il lui dit, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce texte nous montre que Dieu a des informations sur nous avant que nous ne naissions. C'est-à-dire que Dieu sait des choses sur toi avant que tu ne naisses. Savoir qui tu es en réalité, c'est avoir la révélation de ce que Dieu savait sur toi avant même que tu arrives sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, tu es catalogué. Tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, tu appartiens à une famille, une petite ou une grande famille, tu as un niveau social. Toutes ces choses-là mettent des barrières, toutes ces choses en réalité viennent fermer ton esprit. Mais avant que tu ne sois blanc, avant que tu ne sois un smicard, ou que tu ne sois un chômeur, avant que tu ne sois étudiant, mais il y avait une identité qui t'était propre. Tout cela, ce sont les étiquettes de la société. Mais avant que tu ne sois dans la société, tu avais déjà une identité. Puisque Dieu te connaissait. Et dans le cas de Jérémie, il lui dit, avant que tu ne sois un petit enfant, mais avant que tu ne naisses, mais moi j'avais déjà dit que tu étais prophète. Ça, les gens ne te l'ont pas dit, mais moi je te le dis. Je dis, nous sommes trop fermés par les étiquettes de la société. Dieu a dit quelque chose sur moi avant que je ne naisse. Et c'est cela que je suis. Amen. Peu importe ce que les gens vont dire autour de moi. On va vous dire non. Tu fais partie de telle classe sociale. Tu ne peux pas atteindre tel niveau dans la société. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, ce sont les barrières de la société. Mais si Dieu l'a dit, c'est ce qui va se réaliser. Amen. Il y a ce que j'appelle également l'identité commune. Dis à ton voisin l'identité commune. Il s'agit de toutes les promesses que Dieu a faites à notre sujet en tant qu'Église. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Dieu a pour toi des plans de paix et non de malheur. Tu seras béni. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Bien-aimé, j'ai vécu une expérience terrible. Quand on dit la bénédiction vous poursuit là, c'est terrible. J'ai participé il y a quelques mois à une conférence sur les problèmes de l'éducation au Gabon, comment régler les problèmes, etc. Et c'était une conférence qui était organisée par la primature. Alors, on nous a appelés, nous avons participé à la conférence. Et puis, ça a duré quelques jours. Et c'était terminé, nous avons fait un rapport. Et voilà, chacun est rentré chez soi. Et puis, un jour, je reçois un coup de fil du président de comité de cette conférence qui me dit, bon, mais on a un courrier pour vous. Je dis, ok, très bien, je viendrai prendre le courrier. Et puis, j'essayais à chaque fois de me libérer pour aller prendre le courrier, je n'arrivais pas. Et à chaque fois, chaque semaine, on m'appelle. On a un courrier, il faut que vous veniez prendre le courrier. Et puis, bon, j'ai dit, je n'arrive pas à me libérer, on va envoyer quelqu'un. On envoie les personnes pour aller prendre le courrier, ils se perdent. Ils ne trouvent pas la porte, ils ne trouvent pas les bons interlocuteurs. Impossible de retrouver le courrier. Et comme ça, plusieurs semaines, plusieurs mois sont passés. Jusqu'à un jour, j'arrive au travail et puis je me retrouve nez à nez avec la personne qui a présidé, n'est-ce pas, cette conférence. Et puis cette dame me dit, mais on vous cherche depuis. Je m'excuse, vraiment, c'était difficile. On a essayé de récupérer le courrier, on n'a pas pu. Et puis elle me tend l'enveloppe. Il y avait à l'intérieur à peu près 300 euros pour ma participation à la conférence. Et j'étais vraiment étonné. J'ai dit, quand la bénédiction va te poursuivre. Même là où tu n'as pas eu le temps, Mais ça va te poursuivre jusqu'à ta porte. Ça, c'est l'identité commune. Ce sont des paroles que Dieu a dites pour nous tous, tous les chrétiens. Dieu veut te bénir. C'est une réalité. Et cela dans tous les domaines de ton existence. Mais simplement, il faut que ces paroles soient ancrées au plus profond de notre cœur. Dieu a des plans de paix et non de malheur. Même quand c'est difficile, je me rappelle cette parole. Dieu a des plans de paix et non de malheur. Ce ne sont pas les circonstances, mais Dieu a un plan de paix pour ma vie. Alléluia. Et enfin, dans la question de l'identité, il y a ce que j'appelle l'identité spécifique. Dis à ton voisin l'identité spécifique. C'est ce que Dieu dit spécifiquement sur toi. La destinée qu'il a pour toi. La raison pour laquelle tu es sur la terre. Bien-aimé, chacun d'entre nous, il y a une raison pour laquelle nous sommes ici. Il y a des choses que tu vis, ce sont des accessoires. Il y a une raison, il n'y en a pas 15. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a une seule raison pour laquelle tu es là. Une seule. Et c'est cela que tu dois savoir. C'est cela le mystère de ta vie. Tant que tu n'as pas trouvé ça, tu vas tourner en rond. Il y a une chose, je dis bien une chose, pour laquelle tu es là. Il n'y en a pas deux. Il y en a qui font des projets, oui, je suis venu pour faire ci, pour faire ça, c'est faux. Il y a une seule chose, une seule, je dis bien une seule. Et dans cela, même moi, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Il faut que tu cherches, il faut que tu pries, il faut que tu fouilles et Dieu va te révéler. Tu ne peux pas attendre à chaque fois qu'un prophète se lève, il vienne parler sur ta vie. Non! Personne ne peut t'aider. Il faut que tu t'aides toi-même. Et exactement comme Jérémie, Dieu lui a parlé directement, mais Dieu va te parler aussi directement. Et il va te dire pourquoi. Vous vous rappelez certainement de l'histoire d'Esther. Esther croyait que le fait d'être la femme du roi, elle pensait qu'elle était, c'était ça le summum. Elle pensait que c'était pour cela qu'elle était venue sur la terre. Mais lorsqu'il était question, s'est agi de vouloir tuer le peuple juif, il y a une phrase qui est dite dans la Bible, et c'est certainement pour des moments comme ceci. Ce sont pour des moments comme ceci que j'ai été suscité. Ce sont pour des moments comme ceci que j'ai atteint cette position. En fait, si je suis né, c'était simplement pour délivrer le peuple juif. C'est la même chose pour Jésus. Jésus faisait des miracles, il multipliait les poissons, il multipliait les pains. Les disciples étaient là, ils vivaient vraiment une vie extraordinaire autour de Jésus, vraiment. Et puis à un moment donné, Jésus leur a dit, écoutez, il faut que le Fils de l'homme souffre. Il faut que le Fils de l'homme soit rejeté. Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Les disciples ne comprenaient rien, mais Jésus savait que c'était pour ça qu'il était venu. Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Tout ça, c'était accessoire. Tout ça, c'est ce qui accompagnait simplement. Mais Jésus était venu pour mourir sur la croix. Pour le salut de l'humanité. Tu as une destinée, une identité spécifique qui est la tienne. Et que Dieu va te révéler. Amen. Le premier point que tu peux noter, c'est que nous ne sommes pas tous pareils. Amen. Dis cela à ton voisin, nous ne sommes pas tous... Bien aimé, il y a des personnes dans l'église qui s'amusent. Ils pensent qu'on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. Dieu a des choses pour toi, mais Dieu a aussi des choses pour moi. Mais nous ne sommes pas pareils. Il y a un grand péché parfois dans nos milieux, c'est la familiarité. Un pasteur et un fidèle ne sont pas pareils. Je dis, le leader spirituel peut être ton confident. Mais vous n'êtes pas pareil. Il y a des égards particuliers que l'on a pour les leaders spirituels. Il y a d'autres égards qu'on a pour d'autres personnes. Parce que Dieu lui-même a hiérarchisé les choses. Maintenant, nous nous respectons mutuellement. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais marcher sur toi. Donc, on se respecte mutuellement. Mais on sait que nous ne sommes pas
pareils.
Alléluia. Enfin, je veux finir sur l'identité en disant que Dieu révèle la destinée d'une personne de façon progressive. Dieu ne va pas te dire dès le départ exactement là où il veut t'emmener. Non. Dieu ne l'a jamais fait et Dieu ne le fera jamais. Peut-être l'avait-il fait pour Jésus. Mais alors ce serait la seule exception. Mais lorsque l'on voit toutes les saintes écritures, nous voyons que Dieu donne sa révélation de façon progressive. Il donne la vision générale. Il dit à Abraham, je ferai de toi un grand, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais honnêtement, entre vous et moi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Tu seras grand. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme toi aujourd'hui. Dans ton cœur, tu sens que tu es un grand. Tu sens que vraiment Dieu t'appelle à de grandes choses. Mais tu n'arrives pas à mettre la main sur ces choses-là. Mais Dieu, en son temps, petit à petit, il va te les révéler. C'est ce qu'il a fait pour David. David était d'abord berger. Il était destiné à être roi. Mais il l'a fait passer par des victoires intermédiaires. Si aujourd'hui tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ce n'est pas quand tu seras roi que tu seras fidèle. Je parlais il y a 2 semaines, j'enseignais sur les dîmes et les offrandes, il y a 2 semaines, et j'expliquais que si aujourd'hui tu gagnes 100 euros, tu n'arrives pas à prendre 10 euros pour donner à Dieu, ce n'est pas quand tu vas gagner 10 000 euros que tu vas prendre 1 000 euros. Non. Si dans les petites choses que Dieu te donne déjà, tu n'arrives pas, mais Dieu va attendre que tu finisses d'arriver d'abord là où tu es. Après, il va t'emmener à la deuxième étape. Amen. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteignes ce qu'il a pleinement prévu.
Amen.
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 Je peux continuer?
Oui.
Bon, prenons le livre de Genèse. Amen, amen. Prenons le livre de Genèse au chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Je veux encore parler, vraiment si Dieu me le permet, si vous le permettez, pendant quelques instants. Genèse au chapitre 3, verset 8 à 9, nous dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Amen. Alors, nous connaissons, n'est-ce pas, cette histoire. Dieu parle. à Adam et Ève, il leur dit, voilà, tous les arbres et toutes les herbes vous appartiennent, vous en mangez, mais en ce qui concerne l'arbre, le fruit, pardon, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. D'ailleurs, au passage, ce principe-là, c'est le principe de la dîme. Je ne sais pas pourquoi je parle de la dîme comme ça. C'est le principe de la dîme. C'est le principe selon lequel, dans tout ce que Dieu nous donne, il y a une partie qu'on ne doit pas toucher. C'est le principe selon lequel, quand tu manges la pomme, tu ne manges pas les pépins. Le principe selon lequel, quand tu manges l'orange, tu manges tout, sauf les pépins. Parce que les pépins sont destinés à faire quoi ? À repartir dans la terre ? Pour reproduire encore d'autres oranges. C'est ça. C'est pour ça que comme toi tu manges les pépins, tu n'arrives pas à multiplier les oranges. Tu es en difficulté. Comme chaque mois, tu ne te disciplines pas. Tu manges la semence, mais tu n'arrives pas à multiplier. Tu es en difficulté, bien-aimé.
C'est la vérité.
Et malheureusement, c'est ce qu'Adam va faire. Il va manger le fruit avec Ève, même s'il va accuser Ève. Qu'elle-même va accuser le serpent. Vraiment. Alors, ce qui va se passer, c'est que Dieu, après qu'ils aient péché, ils vont aller se cacher. Comme nous tous nous faisons. Lorsque nous péchons, nous prenons, n'est-ce pas, la porte. Et alors, Dieu va les chercher. Et puis, la Bible nous dit ici que la voix de Dieu, Dieu parcourait le jardin. Et puis, il va parler. Et puis, il va demander à l'homme, il va demander à Adam et Ève, mais où es-tu? Je te pose la question ce matin, où es-tu? En fait, c'est Dieu qui te pose la question. Et je soupçonne Dieu dans ce texte. Parce que l'une des premières choses que l'on m'a enseignée quand je me suis converti, c'est que Dieu est omnipotent. Dieu peut tout, en tout temps. Il n'y a rien qui soit impossible. Donc quand Dieu est en nous, il n'y a rien qui nous soit impossible à Dieu qui est en. Mais on m'a aussi enseigné que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout, en même temps, en tout temps. Dieu est partout. Et on nous dit également dans les attributs de Dieu que Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Tout le temps. Alors quand Dieu pose la question à l'homme, il lui dit, il lui demande, où es-tu? Est-ce que c'est parce que Dieu manque d'informations? Est-ce que c'est parce que Dieu ne sait pas où est l'homme et il cherche à le localiser? Je doute. Je crois que Dieu savait exactement où était physiquement l'homme. Mais quand Dieu pose la question, où es-tu? C'est pour que Adam lui-même se pose la question à lui-même, mais où est-ce que je suis? C'est pour que Adam se pose la question de savoir, après que j'ai mangé, où est-ce que ça m'a emmené? Après que j'ai fait tout ce que j'ai fait, Est-ce que réellement j'ai avancé? Bien-aimé, il y a des moments dans la vie où on doit se poser des questions. Il y a des moments dans ta vie où tu dois te poser des questions. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis de ma vie familiale, par exemple? J'ai posé un certain nombre d'actes, mais est-ce que ces actes ont permis que ma vie puisse prospérer? Est-ce que ces choses ont fait que j'ai réussi à m'épanouir? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Où est-ce que j'en suis? Où suis-je? Où es-tu? Pose la question de ta localisation physique. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des bénédictions qui sont liées à la terre. Je dis ça différemment. Il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a des choses que Dieu fait uniquement quand tu te trouves sur le sol que Dieu a décidé où tu dois te trouver. Il y a des choses que Dieu n'arrive pas à faire dans ta vie parce que tu n'es pas au bon endroit. Parce que tes pieds n'ont pas foulé le bon sol. Je suis étonné de voir des personnes qui persistent à être dans des lieux où ils ne doivent pas être. Tu bloques la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il y a des personnes qui sont convaincues, et beaucoup, beaucoup en Afrique, que c'est là-bas que ça se passe. Il faut que j'aille à Miami. Il faut que j'aille à New York. Là où Dieu veut certainement te bénir à Franceville. Et parce que tu es à Miami, Dieu n'arrive pas à te bénir. Oui, tu es peut-être là où tu es, mais tu réussis à faire croire à ceux qui sont là-bas, qui doivent t'envier. Tu envoies des photos. Mais là où tu es, Dieu n'arrive pas à te bénir parce qu'il a besoin que tu sois sur le sol où se trouve ta bénédiction. Oui. Où es-tu? Pose la question de l'église également. Mais dans quelle église est-ce que tu es? Bien-aimé, on ne choisit pas l'église comme ça. Tu ne choisis pas une église pour être dans une église? Oh, j'ai besoin d'aller dans une église. Tu vas sur Google, tu vois l'église la plus proche, tu vas. Non! Non. Ce n'est pas Google Maps qui définit l'église où tu dois être. Mais tu dois avoir une révélation. On ne se met pas sous n'importe quelle autorité spirituelle. Où es-tu? Enfin, prenons Genèse. Encore une fois, au chapitre 16, versets 7 à 8. Genèse, chapitre 16, versets 7 à 8. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Verset 8, il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Elle répondit, « Je fuis loin de ma maîtresse. » Amen. Alors Agar, comme nous dit le texte ici, c'est la servante de Sarai, Sarah, la femme d'Abraham. Et en réalité, Abraham a couché avec Agar parce qu'il voulait avoir des enfants et il pensait, Sarah également à ce moment-là, qu'en ayant un enfant avec Agar, en fait, l'enfant devait être l'enfant de la promesse et qui lui permettrait d'être une bénédiction pour toutes les nations et pour toutes les familles de la terre. Et c'est Ismaël qui va naître. Nous verrons par la suite que Sarah, qui était stérile, finalement enfantera et elle aura Isaac. Alors, il va y avoir une lutte, du moins une guerre entre Agar et Sarah, puisque Agar, qui est la servante, mais qui va finalement réussir à avoir un enfant avec le maître de la maison, va commencer à considérer qu'elle est maintenant chef dans la maison. Et puis, bon, Agar et Sarah vont commencer à se chamailler. Et généralement, bon, c'est comme ça que ça se passe, hein, quand il y a deux femmes sous le même toit. Ça finit toujours. En fait, ça finit toujours comme cela. Et puis, Agar va dire à Abraham, écoute, Sarah va dire à Abraham, chasse Agar parce qu'elle est hautaine avec moi. Et Abraham va la chasser. Et c'est cela, le texte que nous avons lu. Agar est chassée, elle part. Et puis, à un moment donné, elle se retrouve près d'une source et un ange apparaît. Et un ange va lui poser la question de savoir, mais Agar, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Et c'est la réponse même qui m'interpelle. Elle répond, je fuis loin de ma maîtresse. En fait, elle ne répond pas à la question. En fait, elle ne sait pas d'où elle vient. Pire, elle ne sait même pas où elle va. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Elle ne sait pas d'où elle vient. Elle ne sait pas non plus où elle va. Elle court seulement pour courir. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne cours pas dans le vide, mais je cours pour, je paraphrase, hein, remporter le prix. Je cours pour remporter le prix, j'ai un objectif, j'ai des objectifs. Je vais quelque part, dis à ton voisin, je vais quelque part. Bien-aimé, d'où viens-tu? Ça parle de nos origines culturelles. Nous devons connaître nos racines. Nous devons connaître nos généalogies. Si tu ne connais pas tes racines, tu n'iras nulle part. Tu dois savoir d'où tu viens. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec leurs origines. Beaucoup de personnes ont même honte. Oui, beaucoup de personnes ont honte de leurs origines. Ont honte de dire d'où elles viennent. Qui étaient leurs grands-parents? Leurs arrière-grands-parents. Beaucoup de personnes essaient de cacher cela. Il y a même des personnes qui changent complètement leur physique parce qu'il ne faut pas qu'on sache que je viens de telle partie du globe. Non. Tu dois savoir et tu dois être conscient d'où tu viens culturellement. Mais d'où tu viens parle également d'où tu viens socialement. Tu dois savoir d'où tu viens socialement. Quelles que soient nos réussites, nous devons toujours nous rappeler de notre ancien statut social. Je ne sais pas quelle est ta position aujourd'hui, mais même si tu devenais multimilliardaire, mais tu dois te rappeler qu'il y a un jour où tu n'avais rien à manger. Ça va te permettre d'avoir un équilibre. Même si aujourd'hui tu peux acheter tous les châteaux de France, mais tu dois te rappeler qu'il fut un temps. Et si avant tu dormais dehors, vous savez, il y a des gens, une fois qu'ils ont réussi socialement, c'est terminé. Même quand ils voient le mendiant dehors, ils l'insultent. Oui, quand il voit maintenant le mendiant, oh mais pousse-toi. Mais toi-même, avant de réussir, tu n'étais pas là.
Amen. La vérité.
tu dois savoir et être conscient d'où tu viens. Et tu dois savoir quelle est ton origine spirituelle. Amen. Jésus a dit, celui qui vient d'en haut parle des choses d'en haut. Bien-aimé, c'est vrai que nous sommes nés d'une mère, d'un père, nous avons une origine naturelle, mais en réalité, tu viens de quelque part et tu viens d'en haut. Et comme tu viens d'en haut, tu dois fonctionner avec les systèmes. Tu ne peux pas continuer à fonctionner avec les systèmes de ce monde. Non. Dieu a établi des principes et tu dois fonctionner avec les principes d'en haut. Parce que tu viens d'en haut. Enfin, tu dois savoir où tu vas. Beaucoup d'entre nous, nous faisons des choix de vie qui ne sont pas des choix de conviction. Nous faisons des choix simplement pour suivre la masse. Un peu comme des moutons de Panurge. Nous faisons parce que les autres font. Tu choisis une orientation de tes études simplement parce que ton père a dit. Simplement parce que ton père était docteur, alors tu dois être docteur. Non! Tu dois savoir où tu vas, tu dois avoir des convictions. Si tu ne sais pas où tu vas, comment dire ça? Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne pourras jamais arriver là où tu ne vas pas. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne pourras jamais arriver là où tu va. Ou là où tu devrais aller. Parce que tu n'en connais pas la destination. Tu ne sais pas. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir dans ta vie où est-ce que tu vas. On nous parle dans le Nouveau Testament, je crois que c'est dans le livre de Luc, on nous parle de cette parabole, cet homme qui était riche et qui avait amassé beaucoup de richesses dans ses greniers pour le futur. Et puis Dieu va lui parler, il va dire, mais qui te dit que tu verras même demain? Et le monsieur est mort la même nuit. La vie que tu mènes aujourd'hui, où est-ce qu'elle t'emmène? Est-ce que les actes que tu poses aujourd'hui te rapprochent plus de Dieu ou pas? Et quand tu quittes cette terre, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que si aujourd'hui, tu trépassais, est-ce que tu es sûr que tu serais à la rencontre de Dieu? Où vas-tu dans cette vie? Est-ce que nous courons simplement après l'argent? Est-ce que nous courons simplement après le fait de vouloir avoir de belles voitures, de belles maisons, donner à manger à nos enfants? Ou est-ce que l'objectif de notre vie, c'est d'être un avec Dieu? Où vas-tu? Que Dieu vous bénisse.